9h20. Tu nous parles d'une... Tu as rencontré une conceptrice visuelle québécoise et qui travaille, entre autres, sur une série extrêmement populaire aux États-Unis, puis je dirais même au-delà des États-Unis, ici aussi.
Ici, là, au Québec, oui. La Servante écarlate, elle a aussi travaillé sur la série Fargo. Elle est en nomination ce soir au Art Directors Guild Award. Qu'est-ce que c'est, le Art Directors Guild Award? Ce sont une série de prix qui sont remis par l'industrie. La plus connue, la branche la plus connue, c'est l'Actors Screen Guild Award. C'était dimanche dernier. On remettait des prix aux acteurs de films et de séries. Ce soir, il y a aussi Jean-Marc Vallée qui est en nomination pour la série Sharp Objects dans la catégorie de meilleur réalisateur. C'est un gars-là qui est très, très prestigieux. Par exemple, dans son cas, on remet, il y a 400 dossiers qui ont été déposés. Il y a 5 personnes qui ont été retenues en nomination. Elle était très, très contente, je vous le dis. Voici pourquoi.
Je pense que les pairs qui font exactement le même travail que toi portent un regard sur ton travail qui est plus, disons, plus pointu. On doit remettre des images, des plans, des photos, parfois des vidéos. Et ça montre, disons, la construction d'un décor du début jusqu'à la fin. Et donc, le vote est comme très pointu.
Et un prix comme celui-là, ben on s'entend que ça peut changer une carrière parce que Elisabeth, en plus, elle a gagné un Emmy Award.
Quand même
pour la même série. Et souvent, après qu'on ait remporté un prix très très prestigieux comme celui-là, arrive un paquet d'offres d'emploi qui malheureusement ne peuvent pas toujours être considérées.
Ben en fait, je m'étais déjà engagée pour faire la troisième série de Handmaid's Tale, alors oui, j'ai refusé.
OK.
Mais déjà encore au printemps, j'ai eu 2 belles offres ici au Québec, puis j'ai été obligée de dire non parce que je travaille jusqu'à la mi-mai. Voilà.
Le showrunner,
oui,
de The Handmaid's Tale a mentionné qu'il pourrait aller jusqu'à 10 saisons.
Oui.
Est-ce que tu as envie de faire 10 saisons avec La Servante écarlate?
Non.
OK. Ça, non, c'est clair, t'as touché.
Clair. C'est un travail très stimulant, en fait. C'est une série qui est visuellement magnifique. On a l'ouverture, on a la possibilité de faire plein de belles choses. Sauf que moi, je pense que dans mon travail, c'est plus important de faire quelque chose de différent. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est mieux aussi de rencontrer de nouvelles personnes, d'être dans des nouveaux milieux. Tu sais, ça garde frais, puis ça garde...
Mais de toute façon, l'univers de cette série-là, The Handmaid's Tale, est déjà créé. Donc, toi, tu as travaillé là-dessus. Fait que probablement, le travail que tu as fait va rester jusqu'à la fin de la série? Les environnements, les maisons?
Oui, et peut-être que non, parce que comme là, dans la première, la deuxième série, la maison principale, là, qui était la maison des Waterford,
mm-hmm,
ben, cette année, on n'ira pas.
Ah non?
Donc...
J'aime ça savoir ça.
On ira moins, peut-être.
OK.
Donc, évidemment, ça nous permet de construire des nouveaux décors. Puis l'histoire, puisque l'histoire, à un moment donné, doit évoluer, hein, pour que oui, ça demeure intéressant.
Moi, j'aime ça quand on donne des petits coups comme ça. Parce que c'est une série qui est gardée très, très secrète. Donc, on n'a aucune idée où l'histoire va aller. Et souvent, on est très surpris d'épisode en épisode. Alors là, je viens d'apprendre que le personnage d'Alfred va avoir une tangente complètement différente. L'émission pour laquelle elle est en nomination, parce qu'on soumet des émissions en particulier, c'est une scène qui se déroulait à Fenway Park, à Boston. C'était une scène très importante au début de la deuxième saison de La Servante écarlate. C'était une scène de pendaison avec toutes les servantes qui étaient debout au-dessus du stade et qu'on s'attendait à avoir une punition parce qu'elles se sont rebellées. Et ça a été une scène qui était quand même complexe à tourner.
Pour la recréation de Fenway Park, il y a eu évidemment... du trucage cinématographique. On est allé à Fenway. Notre équipe d'effets visuels, en fait, a filmé le stade. Nous, à Hamilton, en Ontario, on a trouvé un terrain de baseball qui était sensiblement de la même grandeur et parce que c'est des major leagues, hein, puis ici, on n'a pas les mêmes
grandeurs de stade.
Exactement. Donc ouais, ça, c'était difficile. On en a trouvé un qui était sensiblement de la même grandeur et puis on a travailler ce terrain-là. On a installé nos gallows avec notre corridor. On a mis des herbes mortes, etc. Donc, on a tourné notre scène à Hamilton. Et ensuite, en post-production, ils ont superposé les deux scènes.
Les deux images. On peut faire ça maintenant.
Ben oui, paraît-il. Okay. Des fois, ça m'échappe. En fait, ça m'échappe encore des fois à quel point ils peuvent faire bien faire ça. J'ai jamais vu, moi, j'ai jamais été dans ces studios-là pour voir exactement du début à la fin comment ils faisaient. Puis ça me fascine.
Mais c'est fascinant aussi. Puis ce qui m'épate, moi, c'est que souvent, quand ils tournent à scène, toi, t'es pas sur les lieux de tournage.
Non.
Toi, t'es déjà, là, peut-être un épisode, deux épisodes d'avance.
Ben, en fait, je suis jamais sur les lieux de tournage quand on tourne, ou presque. Là, le matin, je suis là pour m'assurer que tout va bien. Puis ensuite, j'ai trop de choses à faire. Je peux pas rester. Et puisque en télésérie, on prépare et on tourne deux épisodes à la fois, on est toujours, en fait, il y a comme un roulement. On est en préparation et en production en même temps. On construit nos décors, l'équipe de tournage vient tourner, et puis ensuite, on retourne après pour démonter, défaire les décors.
C'est vraiment... Ouais, c'est beaucoup de travail. Et puis, c'est une série de hasards qui a fait qu'Elisabeth s'est retrouvée dans ce poste-là parce qu'elle voulait devenir architecte à la base. Et finalement, elle est entrée à l'école en sciences politiques, en éducation. Elle s'est trouvée un travail chez Cinar Film.
Okay.
Ses notes n'étaient pas assez hautes pour entrer en architecture. Donc, c'est pour ça qu'elle est allée en sciences politiques. Et elle travaillait chez Cinar Film et on lui a offert un poste dans une série. Donc, elle a grandi comme ça. Elle est allée se former les soirs pour apprendre. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui veut devenir concepteur visuel pour une série aux États-Unis, il y a peu de chances que ça se produise. Elle, c'est vraiment... Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui travaillait sur la série Fargo, qui a remarqué son talent, qui a dit « Viens travailler avec moi ». Il l'a amenée sur La Servante écarlate et lui a quitté. Donc, elle a hérité du poste.
Mais là, ce que je comprends, c'est que la scène, en partie, ils ont pris des images de Fenway Park pour avoir le fond d'image.
La vraie image de Fenway Park.
Et le reste, c'est à Hamilton, en Ontario.
Exactement. Parce que la série est tournée à Hamilton.
Tu vas avoir quelque chose de glauque à Hamilton, en Ontario. C'est pas pire.
Oui, bien, les deux. Moi, j'ai vu la scène, évidemment. Et ça fonctionne très, très bien. Je voulais juste te dire que je lui ai demandé de comparer son métier, parce qu'elle a travaillé ici au Québec, avec justement les grandes séries américaines.
En fait, c'est très similaire, finalement. Toujours, on est tous assis autour d'une table à faire les choix qui sont les meilleurs pour le projet sur lequel on travaille. Finalement, ça revient à ça. Mais qu'on soit 20 autour de la table ou qu'on soit 5, c'est le même exercice, tu sais.
Mais le rapport avec, par exemple, le réalisateur, les acteurs, ça doit changer. Par contre, tu sais, ne va pas qui veut jaser avec Elisabeth Moss sur le plateau de La Servante écarlate.
Sais-tu? Non, c'est pas vrai, ça. On le pense oui, puis finalement, non. Ouais. Les comédiens sont étonnamment friendly, gentils, avenants. Pas tout le monde, mais ici non plus, on s'entend. Mais c'est sûr qu'autour de quelqu'un comme Elisabeth Moss, il y a une équipe. Tu sais, elle a une assistante, quelqu'un qui l'habille. Alors, elle n'est jamais seule. Elle se promène. Il y a comme un petit passé autour d'elle. Mais ceci dit, elle est très avenante.
Mais elle est productrice aussi de l'émission. Donc, j'imagine que ça tisse certains liens avec les équipes de travail.
Oui. On la voit pas dans les bureaux parce qu'elle est toujours sur le plateau. Mais elle est très présente, en fait, par courriel. Elle s'implique dans tout, dans l'écriture du scénario, dans la reconfection des scènes. C'est comme elle qui dans les coulisses, et qui mène, qui tire les ficelles.
Elle a vraiment beaucoup de
elle
pouvoir.
Elle a beaucoup de pouvoir,
Elle a tellement de pouvoir, Mathieu, parce que je l'avais déjà rencontrée, Elisabeth Williams, la conceptrice visuelle, il y a quelques temps, pour l'émission de Paul Arcand, puis... Elle engage volontairement des femmes au poste clé de la série parce qu'elle veut donner ce pouvoir-là, justement, tu sais, après le poste MeToo et les inéquités salariales. Mm-hmm. Bien, elle décide volontairement de donner à des femmes de talent des postes clés. Et ça, c'est très admirable. J'avais parlé avec des directrices artistiques ou d'autres gens qui travaillaient sur le plateau. C'était particulièrement intéressant. Je sais pas si on a le temps, mais juste pour les fans de la série, je voulais vous laisser parce que je lui ai posé la question qui tue, celle que tout le monde attend. On écoute. Qu'est-ce qui attend... La Servante écarlate pour la saison 3. Est-ce que tu es capable de donner un peu de pistes ou...
Ben, ce que je peux dire, parce que je perdrai pas mon travail si je le dis, c'est que comme à la fin de la saison 2, elle ne quitte pas avec Emily, elle revient pour chercher sa fille.
Elle laisse partir le bébé,
Elle laisse partir un bébé pour revenir chercher l'autre. Mm. Elle devient une combattante, en fait. Elle devient... elle est fâchée. Puis ça suffit. Puis elle va faire son chemin pour essayer de changer les choses. Je peux dire ça.
Est-ce qu'elle revient dans sa famille?
Elle va revenir temporairement dans sa famille, puis ensuite elle va être mise dans une autre famille.
Alors, tu l'as fait parler. Est-ce qu'elle pouvait nous dire ça, elle, là?
Ben, c'est ce qu'elle pouvait dire sans perdre son travail. C'est ça qu'elle me dit. Fait que je pense qu'elle ne pouvait pas aller plus loin.
OK.
Mais moi, j'ai très, très hâte. Cette série va débuter en avril, évidemment. Si vous ne l'avez pas vue, elle est disponible sur le Club Illico. Elle est sur Crave, super écran, je crois. Mais elle est disponible aussi en français et en anglais. Et c'est une excellente série.
Ça me parle. Je vais tenter de voir ça. Mais si vous voulez voir autre chose que la servante écarlate, vous pourriez voir notre chroniqueuse coiffée d'un chapeau aujourd'hui. Vous allez sur notre page Facebook du 985 FM. Allez voir le Facebook Live parce que tu avais la nouvelle casquette des Alouettes ce matin.
Oui, j'avais la nouvelle casquette des Alouettes. J'ai un gilet aussi, un pull orange, rouge, qui va très bien avec la casquette. C'est vraiment involontaire, mais ça fonctionne.
Si vous n'avez pas vu le nouvel uniforme des Alouettes de Montréal, nous l'avions plus tôt. On a fait un Facebook Live, donc c'est disponible sur la page Facebook du 98.5.